Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
S'il y a une chose qui est importante, qui est vraiment la priorité quand on est un artiste en 2021, mais je pense que ça a toujours été le cas, c'est la liberté. Ben, il y a certains artistes qui considèrent que, avec ce climat de rectitude politique, ben, il y a de moins en moins de liberté. Et c'est pour ça que mon prochain invité a décidé de prendre les grands moyens, de prendre le taureau par les cornes et de créer son propre médium, en fait, son propre média, son propre diffuseur. C'est l'humoriste bien connu Michel Courtemanche qui lance ces jours-ci une plateforme de liberté totale, comme à TV. Bonjour, Michel.
Hey, écoute, t'es une des premières qui le dit comme faux. Comme à TV. Parce que tout le monde dit de ce temps-là, coma TV. Il faut faire attention entre la maladie, l'accidenté et la joie de vivre.
Oui, parce que, mais ça pourrait être aussi coma en anglais, c'est un point final. Non, à moi, c'est une virgule, pardon, non, c'est une virgule.
Oui. Ah, mon fait Dieu, que ça... quel impair! Tu vas sûrement avoir des témoignages là-dessus. Ah non, il y a quelqu'un qui m'appelle.
Ah, oh, c'est oui, pas grave. Continue. Dis-leur que t'es occupé avec Duduche à Cube Radio. Ouais. Alors, Michel, est-ce que j'ai bien présenté, c'est-à-dire qu'en effet, c'est un souci de liberté qui t'a amené à mettre sur cette plateforme-là sur pied?
Oui, bien, c'est ça. En création, c'est bien important qu'on n'ait pas d'autocensure, donc d'écrire librement ce qu'on veut faire. Et, bon, avec les médias traditionnels, c'est beaucoup plus difficile, c'est-à-dire que ton coefficient d'or qui est à 100% au début se retrouve à la fin, des fois, à des 20-25% quand le produit passe à la télévision. Donc, c'est tout du produit standardisé, je dirais, qui passe à la télévision. Et moi, j'ai comme on peut plus vraiment rire de tout, ça a l'air, là. Donc, à la télé, ils sont très frileux, à la radio, dans les journaux, dans les magazines, dans ce que tu voudras. Moi, j'ai comme ce souci-là que faudrait peut-être créer un endroit où il est permis, justement, de s'exprimer et de faire les choses comme on a envie de les faire et non pas comment on a envie que les autres veulent qu'on fasse.
Mais as-tu des exemples précis de cas? Bon, évidemment, on pense tous à cet avertissement, les épisodes de La Petite Vie qui avaient été retirés, puis les avertissements qu'il y a avant La Petite Vie. Mais toi, ça, de quelle façon t'as été victime de ça ou t'as été impacté par cette espèce de rectitude politique de on peut plus rien dire?
Ben, c'est pas tant, on peut plus rien dire. Dans mon cas, c'était de la façon que je voulais dire les choses et dans quel contexte. Mm-hmm. J'ai travaillé sur une série qu'on va tourner bientôt, de toute façon, pour Coma TV. J'avais écrit une série qui se passait sur un plateau de tournage d'une émission de télévision. Okay. Et les diffuseurs étaient très frileux. C'est pas que l'idée était pas bonne, c'était que les diffuseurs disaient que les gens étaient pas intéressés à savoir comment se comportaient les gens sur un plateau de tournage et quel type d'humour on en retirerait. Alors, j'ai quand même travaillé 4 ans là-dessus. Je l'ai proposé à plein de producteurs qui me disaient à peu près la même chose, qui voulaient modifier les choses, et j'en voyais pas vraiment l'utilité, parce que surtout que, à mon avis et l'avis des autres, c'était bien bon, c'était bien drôle, là. Mm-hmm. Mais quand t'arrives devant les diffuseurs, ben eux autres sont frileux par rapport au marché qui représente leur clientèle, surtout les publicitaires qui se trouvent sur les réseaux. Alors, il fallait se plier à un paquet de conditions qui n'avaient plus de bon sens. Et puis, en plus, au bout de la ligne, t'as les avocats aussi qui s'en mêlent pour te dire ça, non, ça, tu pourras pas, ça, tu pourras pas, ça, tu peux pas rire de ça. Puis c'est tout de l'humour pris hors contexte. Un peu comme ce qui est arrivé avec Mike Ward. Quand on a... comment je dirais, quand on a dit ces textes en cours, on les sort de leur contexte, on n'a plus le mic word qu'il y a dedans, puis l'interprétation. Alors, ça m'a beaucoup découragé parce que quand tu arrives devant le diffuseur, il n'y a plus rien après. Mm-hmm. Il n'y a plus de vie, ça meurt là. Et ce qui est épouvantable, c'est que c'est le même nombre d'heures de travail pour un succès que pour un flop. Fait que
oui.
Non, mais c'est vrai, tu sais pas ce que ça va donner au bout de la ligne. Alors, puis d'argumenter aussi, tu sais, de dire, ben non, mais c'est pas ça l'émission, c'est vraiment une histoire d'amitié entre deux chums qui travaillent sur un plateau de tournage. Ouais, mais ça, les gens, ils en veulent pas, puis...
Mais je trouve ça très intéressant, Michel. Je trouve ça très intéressant parce que t'as dit deux mots-clés. T'as dit les publicitaires et t'as dit les avocats. C'est un petit peu les deux angles qui font mal en ce moment. Les publicitaires, parce que c'est...
Il y en a un troisième, c'est les assurances.
Ah oui?
Eh bien oui. Pour erreur et omission, ou pour patati patata, tout d'un coup que tu as un propos raciste, tout d'un coup que tu faut que tu avances en cours, tatata. Alors, ces trois personnes-là, je dirais, ou mm-hmm. en tout cas, ces trois formations-là, c'est ça qui fait que... Mais je pense que le plus important, c'est surtout les publicitaires, parce que c'est eux qui font vivre la télé. Alors, c'est pas une télévision. Puis ce qui est absurde aussi, c'est que c'est de la télévision, mettons, nationale, et puis tu payes ces gens-là pour qu'ils te disent non. C'est ça l'absurdité un peu, je trouve, de la télévision au Québec, c'est qu'on n'a pas les moyens de nos idées. On veut faire comme dans les autres pays, mais on n'a pas les moyens. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut emprunter aux diffuseurs et il faut emprunter au gouvernement aussi, mais là, tout le monde tête après le même toton pour avoir de l'argent. Alors, c'est vraiment...
Attention, parce que la Ligue des Totons va s'en prendre à toi, là. Fais bien attention à ce que tu dis, Michel Courtemanche. Tu parles de publicitaire, puis ça me fait penser à une controverse qu'il y a eu récemment qui, moi, m'a jeté à terre.
Ouais.
Et je suis curieuse d'avoir ton opinion là-dessus parce que ça concerne aussi un humoriste. C'est quand Martin Matt, à la sortie, enfin au tout début de la pandémie, avait fait une publicité pour Maxi où il était vraiment gros. Et c'était une blague, évidemment, sur le fait qu'on a tous grossi, on a tous pris du poids pendant la pandémie. Et évidemment, il y a des gens qui l'ont accusé de faire de la grossophobie. Et Maxi, pour pas le nommer, a décidé de retirer la publicité. Est-ce que tu penses que Maxi aurait dû...
C'est encore plus frileux que la télévision, les publicitaires, parce que moi, il y a une époque où j'étais porte-parole d'un yogourt qui s'appelait Danone.
Ouais.
Et en signant le contrat, je me suis rendu compte que le pot de yogourt était beaucoup plus important que moi. C'est-à-dire que j'avais plus le droit d'avoir d'opinion politique, d'opinion sur l'avortement ou des affaires là, qui concernent tous. Oui, t'es muselé à partir du moment où tu endosses un produit, tu deviens juste une image. Tu sais, t'as pas de fond, t'as pas de... c'est vraiment là. Puis je me rappelle aussi Martin Matt à la Saint-Jean avait porté des propos un peu indépendantistes ou péquistes ou je me rappelle plus trop quoi. Et le commanditaire qui travaillait à l'époque avec lui il avait comme un peu menacé de le retirer, tu sais, de dire, mais là, attention, tu peux pas vraiment dire ce que tu veux. Alors, mais la grossophobie, moi, c'est un nouveau terme que j'apprenais, là. j'avoue que moi, j'avais trouvé ça bien drôle, là, parce que...
Moi aussi.
Le fait qu'il avait engraissé, peut-être que, je sais pas, aliment, tu sais, il aurait pu rester la même grosseur, monter sur une balance, puis dire, j'ai pris 20 livres de plus, puis ça aurait passé, là, tu sais. Mais là, c'est le fait que par computer, on l'a grossi. Ça y est, c'est dangereux de devenir gros, je suis un gros, je vais en parler. Ben c'est correct, tu sais, mais faut comprendre le contexte, faut comprendre la joke, il faut comprendre, tu sais, c'est comme Mike Ward avec le petit Jérémy, je veux dire, moi j'ai vu le sketch sur YouTube et tout le long j'ai ri, sachant c'est quoi le punch qui s'en venait, je trouvais que la montée était extraordinaire, c'était bien écrit, il défendait même le petit Jérémy dans son texte, puis c'est à la fin qu'il fait une jambette à la Mike Ward pour démystifier ça, qui était très, très drôle, puis t'entends à peu près 1500 personnes dans la salle rire en même temps, mais là, tu sais, on est en train de museler le rire. C'est pour ça que comme à TV, on dit libérez votre rire, parce que c'est des fois on rit parce que mais on se retient parce que c'est pas correct. T'sais,
on est gêné de rire.
Pas vraiment c'est pas correct, mais on fait attention, faut pas rire de ci, pas rire. Si c'est drôle, câlisse. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter là d'aseptiser puis de tout passer à l'alcool à fiction, là, tu sais.
Ouais.
On va rien dire, ouais.
Ben oui, ça fait du sens, ben certainement. Pourquoi ça ferait pas de sens? Non, mais de toute façon. Regarde, on est tellement écœuré. Moi, écoute, je pourrais écrire 12 chroniques par semaine pour dénoncer le fait que c'est des cas de censure ou de micro-censure ou de.
Ben, la meilleure, ça a été les Manon. Je sais pas si tu te rappelles de ça.
Manon?
Pèse sur le piton, Manon. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Il y avait l'association des Manon qui avait fait pression là, pour qu'elle arrête de dire ça. J'ai trouvé ça fabuleux.
Vraiment, mais je ne connaissais pas cette histoire-là. T'es sûr que c'est pas une joke à inventer, ça?
Le réalisateur du Bye Bye, là, comment il s'appelle, vite fait, là?
Guillaume L'Espérance, non? Ça, c'est le producteur, là, Simon Olivier Fecteau.
Simon Templar, voilà.
Oui.
Simon Olivier Fecteau, qui avait fait une joke sur les Alains, et puis il y a l'association des Alains qui s'est plaint. Il dit, mais voyons donc, Simonac, il n'y a plus personne qui a le sens de l'humour. Le sens de l'humour, c'est la capacité à être capable de rire de soi. C'est ça, le sens de l'humour. Là, si t'as plus ça, ben c'est que t'as un problème à régler. Mais tu sais, règle-le pas sur la table de même, puis faire monter une montagne de je sais pas quoi, là, d'arguments là, qui ont aucun sens et qui aura jamais de gagnant, d'ailleurs.
Alors, je vais te poser plusieurs questions en rafale. Sur ta plateforme comme à TV, vas-tu rire des religions? Vas-tu rire des personnes transgenres? Vas-tu rire des gens non-binaires? Vas-tu rire des femmes? Vas-tu rire... est-ce que tout va être permis?
Ben, en fait, c'est que moi, je me fie au gros bon sens des gens qui vont nous proposer du matériel. Si c'est juste des jokes sexistes ou racistes gratuites, ça m'intéresse pas, je trouve pas ça drôle. Mais si c'est habilement amené avec une plume complètement différente et des gens qui le jouent et qui ont fini par comprendre qu'on rit des gens qui rient du sexe opposé ou tu sais qu'on rit des colons en fait, un peu comme mon Dieu, je vais ramener ça loin là, un peu comme Yvon Deschamps faisait à l'époque. Il y avait des propos racistes, mais il dénonçait l'homme raciste imbécile de l'époque.
Oui, mais est-ce que les gens sont capables de cette différence-là aujourd'hui? C'est-à-dire qu'à l'époque, quand Yvon Deschamps faisait ce genre de blague-là, il faisait appel à ce qu'on appelle le second degré. Est-ce que aujourd'hui, les gens ont encore cette capacité-là de comprendre l'ironie, le sarcasme et le second degré?
Ben, pas vraiment, parce que moi, j'avais soumis une série web chez un producteur, et puis, à un moment donné, dans la série web, il y avait un commentaire d'une réceptionniste de clinique qui racontait son aventure à une de ses bosses, et qui disait, ben, j'ai rien compris, parce qu'elle avait un accent, fait que je pouvais pas comprendre ce qu'elle disait, fait que j'ai écrit ça tout croche, tu sais. Et là, c'était ça la réplique, tu sais, c'était pas plus... ça a été le point central de la discussion pendant une heure par rapport au fait que faut pas rire des ethnies, faut pas rire...
Ben voyons donc!
Oui, mais c'était pas ça, pas tout le propos, là. L'histoire était complètement différente. Ça m'arrive, moi, de pas comprendre quelqu'un qui a un accent à sa rue, là, tu sais, qui me demande de quoi, puis je fais... Ça m'est arrivé il y a même pas deux jours.
Mais des fois, il y a des gens qui me comprennent...
Pour que je puisse pas passer, puis il me parlait, mais je comprenais rien. Mais c'est pas grave, là, tu sais, c'est pas...
C'est pas raciste, tu sais. Oui, ben écoute, moi, je me fais reprocher mon accent à peu près une fois par semaine.
Quel accent!
Ben, quel accent! Ben, c'est exactement ce que j'allais dire, hein. Quel accent, Michel! Écoute, on va écouter un petit extrait que j'ai trouvé sur la page d'accueil de Comme à TV. On écoute ça.
La raison de votre consultation? Un prélèvement! OK! Prélèvement! Quel genre de prélèvement? Numéro 1, numéro 2. Non, non, madame, j'ai pas appelé votre numéro. Je demandais à monsieur si son prélèvement c'était un caca. Donc, numéro 1, numéro 2, ou numéro 3, if you know what I mean. Ben, numéro 3, là, le numéro 3 qui sort quand on fait un numéro 69.
Je sais pas c'est quoi l'affaire qui sort quand on fait un 69. Excuse-moi.
C'est là d'où tu viens. C'est l'indice que je peux te donner.
Bon, d'accord. OK. Je pense que je comprends. Donc, on comprend que... donc, en fait, aussi, il y a tout le côté de la rémunération, parce que ça peut être problématique. Alors, les artistes qui vont travailler avec toi vont être rémunérés de quelle façon, Michel?
Ben, en fait, c'est que les artistes s'autoproduisent, si on veut. Nous autres, la plateforme, c'est un 70-30, c'est-à-dire que la personne qui arrive avec son projet, les 5 séries de 5 minutes qu'ils ont tournées, montées, puis tout ça, et nous les amène, on regarde ça, oui, OK, c'est beau, on va mettre ça sur la plateforme, et on met une mise en location, et les gens sont payés à pourcentage à la performance de la location, c'est-à-dire que nous, on garde 30% pour la plateforme pour le bon fonctionnement, et 70% des profits vont aux gens qui ont créé leur série. C'est un paiement en différé, c'est-à-dire que les gens travaillent tous à l'huile de bras au début et sont payés ensuite à la location.
D'accord. Est-ce que les humoristes vont se mettre riches avec comme à TV?
Je ne sais pas s'ils vont se mettre riches comme c'était le cas, mettons, pour faire une tournée puis tout ça, c'est sûr que c'est plus payant, là. Ce qui est bien avec Coma TV, c'est que tu peux créer ton propre contenu, le mettre sur la plateforme, que ça devienne payant, et puis tu peux faire ça le temps que tu veux, puis les séries, ils sont sur la plateforme le temps qu'ils veulent aussi. Alors, moi, je pense que ça risque d'être très payant pour les gens qui vont être là-dessus. Surtout que là, on veut s'étendre à toute la francophonie mondiale. Ensuite, attaquer le côté anglophone canadien parce qu'ils ont les mêmes restrictions de production d'émissions télé que nous au Québec. Alors, ça serait une bonne opportunité pour eux de tester du matériel. Ben, je suis pas mal sûr que les grands diffuseurs vont venir sur la plateforme voir qu'est-ce qui se fait puis sur quoi ils peuvent copier, c'est sûr et certain.
Ah alors, oui, tu penses que tu vas être...
Comme dans la francophonie mondiale, on veut s'attaquer du côté anglophone aussi. On peut y aller avec hispanophobe.
Fais attention! Quel beau lapsus!
Bon, j'ai déjà des emails qui rentrent. Je pense que ça, pour les gens, en tout cas pour les coûts de production qui sont nuls, les profits sont de l'ordre d'à peu près 1000%. Là.
Ben écoute, surtout que maintenant, aujourd'hui, avec un cellulaire, avec une bonne technologie, ça devient vraiment...
La démocratisation, je dirais, de la technologie qui fait que tout est possible maintenant. Moi, j'ai les 4 séries que j'ai tournées, je les ai faites avec mon iPhone.
C'est fou,
j'ai monté
hein?
ça avec mon laptop à la maison, bien tranquille. Alors, tout est possible, là.
Bon, une dernière petite question, Michel, parce qu'on le sait, tu en as parlé très ouvertement, tu as même écrit un livre face à face. Comment vas-tu?
Comment je vais? Ah, je vais très oui. bien. C'est très difficile en temps de pandémie.
Voilà.
Mais la pandémie, je te dirais, a fait ressortir le meilleur et le pire de moi-même, c'est-à-dire le pire au niveau de la bipolarité, mais aussi de s'auto-trouver des bonnes, solutions pour se remettre sur les tracks. La solution que j'ai trouvée, moi, c'est l'écriture, le montage, et c'est ça, s'occuper le cerveau le plus possible.
Mais au final, entre ce qui a empiré et ce qui s'est amélioré, tu vas bien. Tu peux nous rassurer là-dessus. Tu vas bien.
Ben, je vais bien, aussi bien qu'un bipolaire peut aller. C'est pas la perfection, là, t'sais. Cette maladie-là, j'ai aucun contrôle là-dessus. C'est comme avoir un ado pas d'allure en dedans de soi, là, t'sais, qui décide de faire ce qu'il veut, là, t'sais.
C'est une belle image.
Je suis toujours en train de garder deux personnes. Moi, quand je vais bien, puis moi, quand je vais pas bien. Mais la médication aide beaucoup, le travail aide beaucoup, contact avec les autres. Je fais beaucoup de discussions aussi avec des amis sur vidéo. Là, je vais commencer des conférences vidéo le mois prochain avec Marc Gervais. Mm-hmm. Et aussi des conférences éventuellement sur scène sur justement l'équilibre, comment le maintenir, comment le garder, comment faire, donner des trucs, pas des solutions, mais des trucs. Alors, mais moi, quand je vais mal, je m'en sers toujours pour pouvoir le communiquer pour des gens qui souffrent de la même maladie que moi.
Et c'est pour ça qu'on t'aime. Merci beaucoup, Michel. Et puis j'invite tout le monde à t'envoyer beaucoup d'amour, parce que c'est important, avec la maladie que tu as, de savoir que les gens sont derrière toi, que les gens t'aiment et t'apprécient. Pour tempérer justement tes hauts et tes bas. Et puis aussi, j'encourage tout le monde à aller sur ta plateforme, alors en espérant que je vais encore une fois la prononcer de manière pas trop pire, comme à TV. Merci beaucoup.
Voilà, comme à TV.tv.
TV. Merci.
Ouais.